Destination Soleil. Merci de vous présenter au comptoir Beurre FM pour l'embarquement.
C'est une destination touristique TTHP à très très haut potentiel et pourtant un bijou inexploité. On parle même de trésor caché sous la terre. Le réalisateur Tolt nous présente son Algérie ce matin.
Géoporte, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Décalage immédiat.
Philippe Robichon avec Manuel Mariani.
Décalage immédiat
sur Beurre FM.
J'espère qu'on vous donne l'envie de voyager tous les jours sur Beurre FM cet été. On part à destination des plus belles villes du Maghreb et de toutes ces choses qu'on a envie de voir, qu'on partage avec Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Globetrotteur gastronomique Manu.
Oui, on essaye.
Bien, Eddy Ndjarit est avec nous, c'est vous qui préparez cette émission Eddy.
Bonjour.
Salia, tiens, on peut plus s'en passer, de Madame Petit Futé, notre partenaire Salia Adjilani est avec nous. Bonjour Salia.
Bonjour.
Vous étiez où pour être aussi bronzée?
J'étais en Algérie.
Non.
Elle est toujours bronzée, oui. Salia, toujours.
Non, mais c'est vrai que je voyage beaucoup, j'ai cette chance, mais l'Algérie, là, il faisait très beau.
Et where in the beach were you?
Bah, j'étais à Alger, Oran, que des endroits, il faisait pas beau.
On vous a vu la semaine dernière, et là, vous êtes déjà rentrée, déjà bronzée.
Et oui.
Ah ouais,
il suffit de quelques jours.
Il y a du monde en Algérie, là?
Oui, beaucoup de monde, hein.
Je rappelle que vous êtes responsable des éditions Maghreb, des guides Le Petit Futé, qui est donc notre partenaire dans cette émission. Tolt est notre invité ce matin. Bonjour Tolt.
Bonjour.
Alors Tolt, c'est votre nom. Ouais, on vous entend bien. C'est votre nom de c'est votre totem Tolt, hein, puisque vous appelez Benjamin Martini. Vous êtes réalisateur spécialisé dans le voyage et réalisateur d'une web-série qui s'appelle Don't Go To. Et il y a un an, vous avez posté votre première vidéo sur le Don't Go To algérien. Est-ce que vous avez l'impression de faire le travail que finalement l'Office du tourisme algérien ne fait pas, Tolt?
Je sais pas si je... du tourisme, enfin de l'office du tourisme, mais en tout cas c'est sûr que la vidéo a eu un vrai impact puisqu'elle a fait plusieurs millions de vues, mais en tout cas c'était une vidéo qui était un projet personnel, donc ça n'avait pas forcément pour objectif de développer vraiment le tourisme, mais surtout de changer notre regard sur la vie.
Alors au début ça devait être un documentaire un petit peu plus long, hein, vous deviez faire 26 minutes.
Oui, ouais, en fait j'avais prévu d'agrandir un peu le format, parce que j'avais du coup déjà fait un épisode de 3 minutes et quelques en Iran, et on s'était dit bah, ça pourrait être intéressant de creuser un peu et de faire intervenir des spécialistes sur des questions. Et finalement en fait la personne, le deuxième cadreur qui devait partir avec moi n'a pas eu de visa. Donc j'ai dû partir tout seul et forcément c'est un peu plus compliqué de réaliser un 26 minutes tout seul et en ayant réduit le temps de voyage.
Bon, c'est ça aussi l'Algérie, on peut partir mais on n'est pas sûr d'avoir le visa finalement.
Oui, voilà, c'est aussi, je pense qu'il y a des vraies barrières administratives pour vraiment développer le tourisme.
Mais alors, vous avez un peu devancé ma question, Tolt, parce que j'imagine que quand vous préparez vos voyages et puis vos vlogs, vous devez, j'imagine, contacter l'Office du tourisme. Vous devez essayer de préparer un peu tout ça. Est-ce que vous avez essayé d'avoir des contacts à l'Office du tourisme algérien à votre départ, notamment pour vous aider à avoir des visas, ne serait-ce que ça, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile à avoir pour l'Algérie. Enfin bon, est-ce que vous avez été aidé?
Alors sur la vidéo Don't Go To, j'ai très vite abandonné l'idée de contacter l'Office de tourisme.
Ouais, nous aussi, hein.
Parce que,
je vous rassure.
Pour plusieurs raisons, déjà, parce que je me doutais que l'administration algérienne n'était pas forcément la plus réactive. C'est pas forcément comme des pays où il y a vraiment un office de tourisme qui fonctionne très bien, qui est bien huilé, qui ont l'habitude de travailler avec des influenceurs. Donc je me suis dit, en fait, ça va être plus une part de trop autre chose. Et surtout, vu que je sais que sur l'aspect sécuritaire, ils sont pas forcément... Quand quelqu'un vient se présenter en tant que journaliste ou utilisateur, je pense que ça complique l'obtention d'un visa. Et moi, je voulais pas dénaturer le voyage. Je voulais pas, par exemple, qu'il soit obligé de m'escorter pour
voilà,
pas.
Alors c'est très vrai ce que vous dites, en fait, le problème c'est que quand on demande un visa presse, c'est tout un process et jusqu'à la dernière minute ils peuvent ne pas vous l'accorder, Et il y a beaucoup de journalistes qui sont blacklistés parce qu'ils ont fait des sujets un petit peu polémiques. Et du coup, voilà quoi. Le problème, c'est que quand on demande un visa presse, il y a une escorte. On part pas comme ça dans la nature en Algérie, comme il a pu le faire. C'est vrai, le seul moyen finalement qu'il avait, c'était de prendre un visa touriste classique.
Oui, mais le souci, c'est quand on est avec une équipe de tournage en Algérie et qu'on n'a pas de visa presse, là, on peut avoir des gros soucis aussi.
Ah non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas tourner.
Il l'a fait, Tolt.
Oui, il l'a fait, mais parce qu'il est parti avec un visa tourisme classique.
Il
avait demandé un visa presse, c'était probablement impossible.
Alors, Tolt, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont encore pas vu vos vidéos, il faut les regarder, hein, c'est Don't Go to Algeria, c'était la première. Il y a deux choses qui ont changé, peut-être les images qu'on pouvait avoir de l'Algérie. C'est le reportage de Yann Arthus Bertrand sur l'Algérie vue du ciel, qui ont envoyé une énorme carte postale. Et puis votre vidéo, puisqu'elle est à la fois moderne et qu'elle casse beaucoup de clichés sur l'Algérie. Vous, quand vous allez en Algérie filmer, il y a un an, vous n'y êtes jamais allé, Tolt?
Ah oui, c'était la première fois que j'allais en Algérie.
Hmm. Comment est-ce que vous avez donc organisé votre parcours?
En fait, j'ai pris contact avec des personnes sur place. En majorité, c'était via un ami d'origine algérienne qui m'a mis en contact avec un de ses amis qui pouvait m'héberger à Alger et avec sa famille aussi qui pouvait m'héberger à Oran. Et sinon, j'ai pris contact aussi avec un guide à Janet.
Bon. Alors donc, première réaction, vous arrivez en Algérie et comment est-ce que vous réagissez?
Ouais, c'est un mélange de, on va dire, d'excitation et d'appréhension, parce que c'est sûr que même si je me suis mis dans des conditions pour repartir avec vraiment l'esprit ouvert en me disant voilà, faut pas se fier à tout ce qu'on entend dans les médias. Il y a quand même toujours une petite appréhension où on se dit voilà, ça reste un pays particulier sur le plan de la sécurité. Et puis finalement, en fait, on se met très vite dans le bain et on se rend compte que c'est comme partout quoi. Les gens sont là pour t'accueillir encore plus que dans d'autres pays et on ressent pas forcément ce manque de sécurité que les médias peuvent diffuser.
Mais alors justement, alors moi j'aimerais savoir comment on la traite cette question de la sécurité, puisqu'il y a quand même cette idée qui est très répandue et qui est ancrée chez les gens que l'Algérie c'est dangereux. Donc comment est-ce qu'on peut évaluer le danger, Salia?
Alors en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée de danger en Algérie. C'est vrai que c'est l'image. Ça colle à la peau de ce pays. Et en fait, quand on va en Algérie, faut savoir c'est tout l'inverse. C'est un pays qui est ultra sécurisé. À un point où c'en est gênant parce qu'il y a beaucoup de barrages sur la route où ils peuvent arrêter des voitures qu'ils trouvent suspectes, hein, très arbitrairement. Hein. Ça m'est arrivé une fois, on était dans une voiture, on a été contrôlé, ils regardent tout.
On rappelle, c'est un peu le pays des généraux, donc si le pays des généraux n'est pas sécuritaire.
Non, mais voilà, il faut quand même déjà avoir ça à l'esprit. Il y a eu la décennie noire qui a changé vraiment la donne. Et aujourd'hui, franchement, je me sens plus en sécurité, je le dis sans aucune gêne, en Algérie qu'en France. Voilà. Donc très franchement, je me suis jamais senti en danger, jamais.
Bien, vous Tolt, vous avez senti une forme de danger quelque part ou pas?
Non, pendant tout le voyage, je me suis jamais senti en insécurité. Donc c'est ça qui est amusant, c'est qu'on part avec dans la tête, forcément un peu dans la tête, les histoires d'Hervé Gourdel, toutes ces choses-là.
C'était en 2014 et c'était un cas très particulier. Bon, il s'est fait un peu piéger par des guides qui n'étaient pas vraiment des guides. Il est allé dans la montagne, bien sûr, il ne faut pas partir dans des endroits tout seul, avec des gens qu'on connaît plus ou moins, par des amis. Il faut être prudent quand même. Il ne faut pas s'aventurer tout seul dans ça.
Il faut être prudent comme partout, j'ai envie de dire.
Voilà, exactement. Ouais. C'est du bon sens. Malheureusement, il n'a pas eu de chance et c'est très triste.
Cette image d'insécurité, pourquoi est-ce qu'apparemment... Enfin, pourquoi est-ce que les autorités algériennes et puis le ministère du Tourisme, s'il existe, on se demande encore, ne fait rien pour changer cette image?
C'est une très bonne question.
Voilà, parce que c'est vrai que nous en préparant les émissions, en préparant nos émissions sur les villes en Algérie, on a vu déjà que pour trouver des contacts au niveau Office du Tourisme, ministère du Tourisme, etc. en Algérie, on a l'impression que ça s'il y en a pas.
C'est pas simple, on va dire.
C'est pas simple.
C'est pas simple.
Quand on s'accroche. Ouais.
Quand on trouve des sites internet officiels, hein, de l'Office du Tourisme, etc. des fois ils sont pas mis à jour depuis 2004, 2005. Donc on se demande à quoi servent les sites internet.
Là, Manu, vous exagérez. parler quand même un peu aussi.
Ah, non, ouais. Pas du tout.
Non, là, c'est 2014. 2013, c'est 2014. C'est pas 2000.
Non, il y en avait un depuis 2004-2005, il s'était rien passé. Alors, et non, parce qu'il y a des, il y a des sites internet. Alors, on ne sait pas lequel est le bon, lequel est officiel, etc. C'est peut-être qu'il y a un nouveau ministre qui est arrivé. Il s'est dit, je vais refaire un site internet, mais l'ancien existe toujours. Enfin bon, c'est un peu un grand panier de crabes. Et c'est vrai. Et c'est vrai que si on veut parler de l'Algérie au niveau touristique. C'est très compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Tolt?
Bah, moi, j'ai une théorie. Après, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je pense que le gouvernement veut d'abord vraiment bien sécuriser et laisser derrière tout, justement, la décennie noire par exemple, l'histoire d'Hervé Gourdel. Et veut vraiment pas que le tourisme se développe de façon trop violente, parce que sinon je pense qu'ils risquent de... Enfin, ils ont peut-être peur de perdre la main, justement. Voilà, c'est ce que je pense, mais peut-être que je me trompe complètement.
Non, en fait, aujourd'hui en Algérie, s'ils font pas une grosse politique touristique comme ça peut exister en Tunisie ou au Maroc, c'est parce qu'ils veulent pas le tourisme de masse, c'est ça. Et ils veulent plus un tourisme culturel, de personnes qui vont vraiment venir, qui s'intéressent au pays, mais qui vont venir par eux-mêmes. Ils veulent pas du tout... Enfin, franchement, ils ne développent pas.
Là, Salia, excusez-moi, mais le tourisme culturel en Algérie, quand on voit les pépites archéologiques, historiques, patrimoniales qu'il y a en Algérie et que le gouvernement les laisse tomber en ruine, laisse les gens les saccager, etc., que les sites ne sont même pas protégés, ouais. On pourrait au moins mettre une petite barrière autour en attendant de se dire
d'accord.
On va peut-être faire des fouilles, etc. Il y a quand même des joyaux historiques, oui. Patrimoniaux, archéologiques en Algérie que le gouvernement... Alors, on a compris qu'il y avait que ça a changé un petit peu, mais souvent ce sont des associations indépendantes. Hein, on l'a vu avec certains de nos invités. Ce sont des initiatives privées qui permettent de ressortir un peu le patrimoine, l'entretenir, etc. Mais la volonté politico-touristique, nous on l'a trouvé nulle part.
Pour la préservation du patrimoine, en fait, elle existe quand même. Hein, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est surtout des initiatives locales.
C'est cosmétique, oui.
Mais le problème, c'est que de façon politique, l'Algérie aujourd'hui n'est pas dans un tourisme de masse. Elle est pas du tout. Elle veut surtout pas devenir le Maroc ou la Tunisie. On est vraiment dans des initiatives individuelles et sans faire de publicité touristique. Aujourd'hui, le tourisme est en augmentation. De l'extérieur, c'est pas des touristes algériens.
Ce sont souvent des gens d'origine algérienne qui veulent découvrir le pays.
Il y a une vraie augmentation.
On l'a vu avec les guides, les clients des guides, ce sont des gens soit algériens, soit d'origine algérienne, mais très peu d'Européens.
C'est en train de changer, parce que j'ai eu les dernières statistiques, parce que je travaille beaucoup avec l'ambassade d'Algérie en France, et ils sont très surpris de l'augmentation de touristes qui ne sont pas du tout d'origine algérienne et qui viennent d'eux-mêmes. Et là, j'étais à l'aéroport d'Alger, j'ai rencontré un jeune de 22 ans qui allait, bon, il connaissait des Algériens, mais il avait jamais mis les pieds en Algérie. Et il était un peu en panique parce qu'effectivement, il avait le visa, il savait pas comment ça se passait. Je l'ai vu au niveau de la douane, il a juste dit où il allait. On l'a laissé passer. En fait, ils sont en train de faire avec ce mouvement qui ne comprennent pas, mais qui existe aujourd'hui de tous les étrangers.
Et Tolt, qui est avec nous ce matin, vous avez participé à ce mouvement parce que vous avez fait deux voyages en Algérie, vous y êtes retourné et vous avez constaté une augmentation du nombre de touristes, mais qu'on peut voir et mesurer.
Oui, moi j'ai perçu beaucoup de changements en un an. Bon, après le deuxième voyage c'était que Alger, donc j'ai perçu du changement que Alger. Mais il y a eu beaucoup de rénovations et tout ça, donc je pense que le gouvernement peut-être cherche à justement rénover et voilà peut-être améliorer l'accueil.
Mais votre film, Talk.
Je pense qu'ils ont complètement raison de pas développer le tourisme de masse parce que on voit. Tous les excès que ça peut avoir, mais quand même, j'ai vu des grands hôtels qui se montaient et tout ça, donc je sais pas si c'est vraiment qu'ils veulent pas du tout le tourisme de masse.
Mais là, ça peut être pour le tourisme d'affaires aussi, parce que bon.
C'est beaucoup de tourisme d'affaires, c'est vrai aussi.
Tolt, en tout cas, votre film a contribué à donner l'envie à des gens qui n'auraient même pas eu l'idée d'aller en Algérie, d'aller y voir de plus près. Parmi les autres clichés que vous déconstruisez dans votre film, il y a cette idée que les Algériens n'aiment pas les Occidentaux. Est-ce que les touristes sont bienvenus?
Ah bah, l'Algérie reste l'une des destinations que j'ai faite dans laquelle j'ai été le mieux accueilli.
Ouais. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut voir mon...
Et je pense que je peux difficilement avoir un physique plus occidental.
Oui.
Oui, parce que vous êtes blond. J'ai vu vos vidéos, elles sont géniales. D'ailleurs, je voulais vous féliciter. Et c'était très très bien fait, vraiment.
Et elle donne envie. En fait, ouais. Je veux dire, l'image que vous renvoyez, oui, vous dites, envie, moi je pars demain.
Malgré l'image négative généralisée, on dira, on dira vos, c'est vrai que vos, en fait, mais l'Office du tourisme ou le ministère du tourisme devrait vous payer même.
Hein. Non, mais c'est...
Bah, heureusement, sur le deuxième film que j'ai fait à Alger, j'étais, c'était un projet qui était financé par Eglazur. Mais c'est vrai que
le patron est algérien, il faut le savoir. Le patron, il est algérien, le patron d'Aglazur.
Oui, oui.
Donc c'est vrai que c'est à noter quand même.
Mais est-ce que justement, moi j'ai regardé votre vidéo financée par Eglazur, en tout cas on voit le logo d'un grand hôtel et d'Eglazur. Est-ce que vous qui êtes un voyageur intransigeant, qui êtes quelqu'un finalement qui pousse les portes et qui dit les choses, est-ce que vous perdez une partie de votre libre arbitre et de votre franchise en étant d'une certaine façon racheté?
Alors, évidemment, quand on travaille pour un client, on n'a forcément pas la même liberté de parole. Après, moi, j'essaie de toujours rester vraiment honnête dans ce que je dis. Et je ne vais pas conseiller d'aller à un endroit si
ça vous a pas plu.
Et là, ce qui est particulier, c'est que c'est justement avec Eglazur, m'ont quand même laissé vraiment. Parce que carte blanche et ils m'ont pas du tout imposé de script ou quoi que ce soit, donc j'ai l'impression quand même d'avoir été assez libre dans ma façon de présenter Alger. Donc enfin, ils ont pas vraiment influencé ce que j'ai dit.
Oui, de toute façon, l'intérêt d'Eglazur, c'était de vendre plus de billets d'avion. Donc sur la base de votre première vidéo, je pense qu'ils étaient pas inquiets en vous laissant totale liberté sur le contenu de la seconde.
Exactement. Et puis je pense que aujourd'hui, les marques et les partenaires qui vont travailler avec des influenceurs ou des gens voilà qui font le même métier que moi, ils ont conscience que dès qu'on essaye d'imposer un discours à quelqu'un, ça se ressent tout de suite au niveau des internautes. Et donc, de plus en plus, ils font confiance aux influenceurs.
Vous en vivez d'ailleurs de vos activités d'influenceur ?
Oui, là justement, je commence à avoir beaucoup plus... De plus en plus de commandes et de partenariats, donc je suis vraiment content, les fruits du travail commencent à se faire voir.
Bien, allez, Tolt, vous restez avec nous. Dans un instant, vous nous donnerez le top des villes que vous préférez, que vous nous conseillez d'aller voir en Algérie. On est en Algérie avec vous ce matin.
Décalage immédiat sur Beur FM.
Destination Soleil, décalage immédiat.
Philippe Robichon avec Manuel Mariani sur Beur FM.
Voilà, et nous vous conseillons aujourd'hui de regarder cette web-série Don't Go to Algeria avec, sans modération. Tolt est notre invité ce matin. Tolt, c'est vous qui avez réalisé cette série de Don't Go to Algeria qui est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'ai regardé ce reportage, je me suis dit que c'était la chose la plus intelligente et la plus moderne qu'on avait fait sur l'Algérie aujourd'hui. Nous avons sur ce plateau Salia Agdjilani qui est avec nous, qui est responsable des éditions Maghreb, des guides de Le Petit Fité. Manuel Margheni est là également et Eddy Nedjari est là aussi. Tolt, vous êtes toujours là. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on a Tolt avec nous? Alors, on a perdu Tolt peut-être. Non, voilà, c'est formidable.
On vous a récupéré.
Finalement, dans l'Algérie, qu'est-ce que vous avez préféré dans l'Algérie que vous avez découverte en 2017?
Je dois dire que le désert du côté de Janet, c'est quelque chose qui est vraiment assez marquant, parce que j'avais déjà vu des déserts en Iran, mais c'est quand même des paysages absolument extraordinaires.
Ouais.
Et puis de manière plus générale, je pense que c'est plutôt l'expérience humaine qui m'a marqué, parce que c'est vrai que on peut, en partant en Algérie, on peut se dire voilà, c'est en tant que Français, il y aura peut-être quelques personnes qui ne vont pas être ravies de voir un Français chez eux, mais en fait, c'est complètement faux.
Et c'est vrai que dans la partie et dans la dimension du voyage, il faut dire que l'expérience humaine, elle est presque aussi importante que la rencontre physique avec le pays. Hein.
Ah, complètement. Aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche de pays où je sais que les gens sont accueillants, qu'il y a un vrai partage et une vraie expérience humaine. Et je l'ai trouvé en Algérie, comme j'ai pu le trouver aussi en Iran ou dans d'autres pays qui ont ce sens de l'accueil.
Et d'autant plus que les Algériens n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de touristes. Donc quand il y en a un qui arrive, ils sont très contents. Ça les touche que quelqu'un vienne découvrir leur pays. Ils vont se plier en quatre pour faire plaisir aux touristes. Ils vont même l'inviter chez eux très facilement.
À la maison,
facilement.
Oui, oui.
Ça vous est arrivé, ça, Tolt? Vous avez été invité à manger chez les gens?
Pas complètement. Il y a une vraie curiosité bienveillante.
On le voit dans vos vidéos, d'ailleurs. Vous allez manger chez l'habitant.
Ouais. Non, c'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de touristes sur les dernières années, ça éveille la curiosité et ça invite à faire encore plus de rencontres.
Alors, Tol, depuis le début de l'été, nous on a évidemment fait visiter à nos auditeurs plusieurs villes d'Algérie. Alors il y en a pour lesquelles on a des petites préférences, pour lesquelles on a eu des petits coups de cœur. Est-ce que vous avez eu comme ça des coups de cœur pour certaines villes? Alors soit pour la ville elle-même ou bien pour les habitants, parce qu'effectivement ils étaient plus accueillants qu'ailleurs. Est-ce que vous avez un petit palmarès des villes que vous avez visitées?
Alors, ce serait compliqué de hiérarchiser parce que chaque ville a un peu ses avantages et inconvénients.
Non, mais sans faire de podium, quoi. Les deux, trois villes ouais. Vraiment qui vous ont le plus marqué, quoi.
Bah, de toute façon, j'en ai pas fait tant que ça. Donc, en soi, ça va être dicté. Mais je pense que Alger, pour les monuments, la Casbah et tout ça, pour tout ce qui est culturel, c'est vraiment pas manqué.
Alors vous, par exemple, à Alger, dans une des vidéos, pour ceux qui nous écoutent, vous allez à l'intérieur du musée d'art contemporain qu'on connaît pas, et par exemple, vous allez faire la visite des rues du street art.
Oui.
Donc ça, c'est encore des choses qu'on connaît encore moins d'Alger.
Bah, c'est sûr que moi, je voulais avoir une approche un peu inattendue, et je me disais...
Un peu moderne.
C'est intéressant aussi de faire un petit point sur l'art contemporain. Et voir qu'il y a plein d'initiatives jeunes avec des jeunes Algériens pour justement faire vivre la culture contemporaine et ça je trouve que c'est intéressant.
Et il y a un vrai mouvement et le street art est magnifique à Alger.
Oui, il y a plein d'œuvres dans la rue qui sont vraiment vraiment étonnantes.
Alors Alger ensuite, Tolt.
Après pour l'ambiance, je pense que il faut aller à Oran.
Je confirme, j'y étais, toujours autant d'ambiance.
Ville magnifique. Hein.
Enfin, voilà. Salia, vous n'êtes pas une référence, vous connaissez, à part le 18e étage du Sheraton, qu'est-ce que vous connaissez?
Ah non, mais je connais beaucoup de choses.
À part le Sheraton, Emiliana.
Mais non, il y a plein d'endroits accessibles, et même le Sheraton, c'est pas si cher que ça, faut penser touriste. Hein.
Qu'est-ce que vous conseillez justement pour l'ambiance à Oran, Tolt?
On va faire un tour sur la corniche.
Voilà.
Après, moi, je me souviens plus trop des noms, mais on est allé en boîte. Et c'est vrai que aller en boîte, c'est pas forcément ce qu'on s'attend à faire en Algérie, pardon. Donc voilà, moi, j'étais vraiment surpris par l'ambiance à Oran.
D'accord. Et quand vous parlez de boîte, c'est quoi le Macumba à Oran?
Alors, je vous dis, je me souviens plus du tout des noms des endroits. Mais souvent, je crois que c'est des boîtes qui sont dans des hôtels.
Oui, il y a beaucoup de bars, clubs dans les hôtels, mais il y en a quand même à l'extérieur. Bon, il y a tout ce qui est cabaret, mais c'est tout.
Voilà,
ce
mais après, il y a
la débauche
licence
totale,
alcool, la licence
voilà,
alcool
c'est ça.
N'est pas forcément...
Mais le Baalbek, c'est une vraie référence. Hein. J'y étais encore, c'était vraiment super. Et c'est tenu par une femme. Hein, ils font un petit filtrage à l'entrée pour éviter les problèmes. Et on s'y amuse vraiment.
Et qu'est-ce qu'on a comme musique au Baalbek, Salia?
On a de la musique orientale, les tubes du moment et aussi...
Les tubes du moment?
Oui, il y en a beaucoup en Algérie.
Je pense que le petit futé devrait faire un guide des boîtes d'Algérie, parce que à mon avis, Salia attend d'écrire un guide entier. Oui.
Et donc, le Baalbek.
Bon, le Baalbek. On vous suit les yeux fermés. Ensuite, Tolt.
Après, pour une ville, on va dire, propre et bien tenue, je pense que Tlemcen est une référence.
Ah, Eddy exulte sur le plateau, puisque Eddy est originaire de Tlemcen.
Exact.
Très jolie ville.
Très jolie ville, ouais. Et puis après, il y a d'autres villes à faire que moi j'ai pas pu faire, mais j'ai entendu beaucoup de bien, comme Gardaïa, Biskra. Constantine. Donc ça, c'est des villes que je ferai la prochaine fois.
Bon, il faut demander à votre partenaire avec l'Azur qui vous envoie des billets. Mais pour ceux qui vont regarder vos vidéos, et vraiment, j'espère que vous serez nombreux à aller voir les vidéos de Tolt et grâce à ça, avoir envie d'aller découvrir sur place, hein, de mettre des images et d'aller constater sur le terrain. Vous êtes allé voir la vache qui pleure, des tombeaux du néolithique, les peintures rupestres aussi également, puisqu'il y a ce patrimoine en Algérie.
Oui, du côté de Djanet, il y a pas mal de sites archéologiques.
Donc ça il faut aller sur place. Vous vouliez faire sauter un certain nombre d'idées reçues sur l'Algérie. Bah, regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Par image, je disais que c'était le choc des photos, mais là, les images, elles parlent d'elles-mêmes.
Bah, là, c'est vrai que, enfin, bah, après, c'est le concept du temps de retour. C'est l'idée, c'est vraiment de casser les idées négatives par l'image. Et ça s'est avéré assez facile parce que finalement, ce que je filme, c'est ce que je vis, c'est la vérité, je modifie rien. Et en fait, il y a une telle richesse culturelle, un tel sens de l'accueil que voilà. Ça se fait un peu tout ça là.
Et juste après, donc, Don't Go To, il y avait quelque chose aussi très intéressant. C'est un article que vous avez écrit, Voyage des seuls en tant que femme en Algérie, justement. Que c'est la suite en fait de Don't Go To Algérie, c'est ça?
C'est pas forcément la suite, c'est juste que suite à la vidéo, j'ai eu quelques questions justement de femmes qui voulaient voyager en Algérie. Et moi, je me sentais pas légitime pour répondre à la question puisque je suis un homme, donc forcément, je vais pas avoir la même perception qu'une femme. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un article en interrogeant deux femmes qui avaient voyagé en Algérie et faire un peu, voilà, essayer de faire un résumé de leurs expériences. Enfin, de leur expérience. Et finalement, c'est un article, oui, qui a été très bien reçu parce que c'est vraiment une question que beaucoup de femmes se posent. Mmh.
Salia, est-ce qu'on peut aller, on peut partir, par exemple, deux copines peuvent partir ensemble, aller visiter l'Algérie?
Complètement, hein. Il faut juste faire attention à sa tenue, bien sûr, dans certains endroits un peu reculés, hein. Par arriver en mini-jupe, c'est sûr que c'est pas une bonne idée, mais dans les grandes villes, il y a aucun problème. Il faut savoir qu'en Algérie, on n'est pas obligé de porter le voile, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui croient ça. On peut totalement marcher sans voile, et sans jamais se faire embêter à aucun moment. Les gens respectent. Il y a les deux façons de s'habiller.
On peut aller à la plage en bikini.
Voilà, en bikini ou en burkini, hein, c'est selon.
Le choix. Mais,
les deux se côtoient. Mais dans la rue, moi, je suis pas voilée. Hein, j'ai jamais porté le voile et je compte pas le porter. J'ai jamais de problème. Hein, nulle part.
Tolt, vous faites une prochaine vidéo sur l'Algérie ou vous passez à une autre destination?
Pour l'instant, il n'y a pas de projet concret, mais je finirai forcément par y retourner pour aller faire découvrir justement les villes que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme Constantine, Gerdaïa et tout ça.
Et puis voir comment ça a évolué peut-être aussi depuis votre dernier voyage.
Oui, c'est toujours intéressant de faire un petit point et de faire une mise à jour sur justement sur l'évolution. Ouais.
Il y a la promenade des Sablettes là qui est quasiment terminée. Je recommande. Hein. C'est une très belle balade en bord de mer qui passe devant.
Mais où?
Alors, à Alger, pardon.
Voilà. Préciser la ville. Ouais.
Oui. Donc c'est très agréable. Vraiment, je recommande. Là, j'y étais et c'est pas loin de la très très grande mosquée qui est quasiment terminée, hein, qui sera donc la plus grande mosquée d'Afrique, plus grande que celle de Casablanca et qui va bientôt être inaugurée
par le président.
Voilà.
Bouteflika.
Normalement, oui.
Merci Tolt d'avoir été avec nous. Don't Go to Algeria, c'est votre web série et nous conseillons à tout le monde de regarder ces belles images que vous avez faites sur l'Algérie. À bientôt Tolt et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que dans un instant, vous gagnez un guide, Eddy.
Exactement, dans un instant, on gagnera le guide Algérie, donc de notre partenaire, le Petit Futé.
Et est-ce que vous pensez que Salia va le dédicacer? Parce que moi, je pense que ça donne une autre valeur à ce guide, Salia.
Ah, mais je vais le dédicacer avec plaisir.
Avec l'adresse du Balbec à l'intérieur rajoutée à la main.
Voilà, oui.
Décalage immédiat dans un instant. Nous serons avec Saïd Boukhelifa, qui est expert en tourisme et qui est le président du syndicat national des agences de voyage algériennes. Et nous parlerons notamment de la saison en cours et de cette polémique qui enfle entre les touristes algériens et la Tunisie. Vérité ou pas, on en parle dans un instant.
Décalage immédiat sur Beurre FM.
Destination Soleil, décalage immédiat.
Philippe Robichon avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et nous sommes en Algérie aujourd'hui. Salia, s'il vous plaît, ne perturbez pas les animateurs qui ont pignon sur rue dans la maison, notamment Manuel Mariani, qui peut facilement être perturbé par vous, et Eddy Nidjari, qui est encore beaucoup plus perturbable. Je vous rappelle que dans un instant, vous pourrez gagner un guide offert par notre partenaire Petit Futé, d'ailleurs, Eddy.
Aujourd'hui, on gagne le guide Algérie, et pour cela, il faut répondre à la question suivante. Comment s'appelle la nouvelle promenade construite à Alger? Pour cela, il vous suffit de nous appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Saïd Bourkhalifa est avec nous. Monsieur Bourkhalifa, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des agences de voyage algériennes. Alors, il y a, monsieur Bourkhalifa, une polémique qui enfle sur le traitement réservé aux touristes algériens en Tunisie. On n'y comprend plus rien depuis le début de la saison. On dit que les Algériens vont plus en Tunisie, mais ils y vont toujours massivement. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Oui, tout à fait. Ça tombe bien parce que je reviens de Tunisie, où j'étais invité avec le secrétaire général et un vice-président. À Troyes, nous sommes partis à l'invitation de l'Office national du tourisme tunisien, le ministère tunisien et nos homologues, la Fédération des hôteliers tunisiens et la Fédération des agences de voyage tunisiennes, pour faire une mission d'inspection au niveau de quelques hôtels, à Sousse et à Hammamet, où sont concentrés généralement les touristes algériens.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on leur reproche, justement, à ces hôtels tunisiens?
Non, comme quoi ils ont mal reçu deux ou trois groupes ou ils les ont refusés. Mais après enquête, la vérité est de dire que la faute incombe du côté algérien. Ce sont des bureaux d'affaires qui ne possèdent pas le métier et qui ont traité ces groupes sans confirmation de la part des hôtels et surtout sans paiement anticipé.
C'est-à-dire qu'en fait, les groupes n'ont pas été acceptés parce qu'ils n'avaient pas de chambre réservée, tout simplement.
Réservée et payée à l'avance, comme l'exigent les relations entre hôtels et organisateurs de voyage. Il faudrait que le paiement soit par anticipation. Il y a des accords contractuels. Soit vous payez à l'avance, soit vous payez à l'arrivée, soit vous payez en différé. En différé, c'est rare. Ça n'existe pas beaucoup. Ce sont des défaillances de deux ou trois bureaux d'affaires et qui ont été... Il y a une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, beaucoup d'internautes ont cru à ce rejet d'un groupe algérien. Ils se sont mis à critiquer à tort et à travers. Nous revenons, les touristes algériens sont toujours très bien accueillis. Il y a un tourisme de qualité balnéaire chez eux qui n'existe pas chez nous et qui insiste beaucoup d'Algériens à aller par route parce que la Tunisie est accessible par route. Le Maroc est pénalisé parce que les frontières sont fermées, sinon il y aurait le même rush. 2 millions.
Comme vous savez, monsieur Bourkhalifa, ça passe quand même dans la frontière au Maroc. Elles sont fermées, mais ça passe quand même.
Alors, non, par route, jamais.
Saïd Bourkhalifa, pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis l'Algérie, parce qu'il y en a effectivement beaucoup avec la possibilité de nous écouter via Internet, pour les Algériens qui voudraient aller en Tunisie, il faut donc s'adresser à une vraie agence de voyage, non pas à une entreprise privée qui se substituera à une agence de voyage. Il faut s'adresser à une vraie agence de voyage. Est-ce que vous avez un label, vous, avec l'association, qui permet de reconnaître une vraie agence de voyage d'une société qui vendrait du voyage, mais qui ne serait pas une vraie agence? Est-ce qu'il y a un label? Est-ce qu'il y a un numéro de licence à vérifier?
Oui, c'est une bonne question parce que à la suite de ces malheureux événements, nous avons décidé pour la prochaine saison estivale de mettre justement de l'appel au niveau des agents de voyage qui sont affiliés auprès de notre syndicat, le SNAV Algérie. Et nous allons conseiller par des campagnes promotionnelles à ce que les clients s'adressent à des agences labellisées SNAV pour une garantie de meilleure prise en charge et de meilleures prestations. D'ailleurs, la plupart des agences qui sont affiliées SNAV n'ont pas été défaillantes. C'est surtout des bureaux d'affaires qui n'ont rien à voir avec...
Mais qu'est-ce que vous appelez un bureau d'affaires? Parce que...
Oui, bureau d'affaires, vous savez, bureau société de service, ils vous font la saisie de votre courrier, ils vous font des reliés, ils vous font des...
Oui, une conciergerie, des sociétés de conciergerie, plus ou moins, un petit peu...
Oui, ce que vous les appelez, vous, en Tunisie, c'est les sociétés de service, chez nous, c'est bureau d'affaires, où il y a un fourre-tout, dans leurs attributions, et ils ont billetterie. Et à travers ce mot billetterie, ils en profitent à tort pour faire du tourisme.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, les agences de voyage, c'est pas très bien réglementé. Il y a ce syndicat qui est très sérieux, mais en fait, plus ou moins, n'importe qui peut ouvrir une agence et prétendre avoir une agence de voyage tout à fait légalement. Et donc, ça m'étonne pas du tout ce qui s'est passé. Mmh.
Mais en fait, il faut être clair, Monsieur Bourrelifa,
Pardon.
Oui.
Permettez-moi de corriger ce qui vient d'être dit. C'est pas vrai.
Non, mais j'exagère un petit peu, mais vous savez très bien que c'est pas très réglementé, malheureusement. Moi, j'ai rencontré des gens d'agence qui sont pas sérieux du tout.
Non, je crois plutôt que c'est réglementé, mais la réglementation n'est pas bien appliquée.
Ouais, voilà, c'est ça.
Parce que pour ouvrir une agence, il faut être diplômé de l'école supérieure du tourisme. Ça, d'une part, depuis que la loi 90.
Oui, mais vous savez qu'il y en a plein qui ne le font pas. Il faut faire attention.
Oui, au niveau d'inspection, ça laisse à désirer, des inspections de contrôle. C'est ça, il y a absence de contrôle.
Malheureusement.
Ou bien vous ouvrez votre agence sur la base de 10 années d'expérience. Vous êtes diplômé de l'ORACI, 10 années d'expérience dans le tourisme. Mais malheureusement, certains privés, car en fait, les agences, les gérants qui ouvrent les agences, ils font appel à ce qu'on appelle un directeur technique diplômé de l'école de l'ORACI ou bien possédant ces 10 années. Ces aptitudes-là. Mais juste au bout d'une année, deux années, ils les abandonnent, ils les mettent dehors, et eux-mêmes, ils essaient de gérer, ils gèrent très très mal.
Bon, en tout cas, vous nous dites ce matin qu'il n'y a pas eu de maltraitance et de mauvais traitements réservés aux touristes algériens en Tunisie, c'est ça?
Tout à fait. Et les Tunisiens nous ont déclaré, aussi bien Madame la Ministre que les hauts responsables tunisiens que nous avons rencontrés, l'Algérie demeure un marché très très important dans l'économie tunisienne. C'est le deuxième marché après le marché des Tunisiens. Le troisième marché, ce sont les Russes. Ensuite, en quatrième position, c'est un petit peu le total des Occidentaux, Français, Allemands, etc. Donc, deuxième marché et premier marché étranger. L'Algérie, toutes les conditions sont mises pour que les Algériens passent de très bonnes vacances.
Voilà. Mais aujourd'hui, les touristes algériens sont ceux qui vont le plus nombreux en Tunisie.
Alors, pourquoi justement? Parce que c'est moins cher que l'Algérie.
Premier marché émetteur étranger pour la Tunisie. Ils nous l'ont confirmé il y a à peine trois jours. On était là-bas.
Alors, M. Bourrelifa, laissez parler Saléa parce que sinon, elle va mal le prendre et on ne va pas pouvoir la tenir après. C'est nous qui allons prendre, M. Bourrelifa, si vous voulez bien nous comprendre.
Non, mais si vous me permettez de faire juste une précision. Non, mais il n'y a pas de problème.
Avec plaisir.
Ah, merci, M. Bourrelifa, de nous comprendre. Saléa, allez-y.
Je voulais juste faire une précision qui n'est pas forcément évidente pour les gens qui ne connaissent pas. Pourquoi les Algériens ils vont en masse en Tunisie? Tout simplement, et c'est une grande contradiction que j'avoue avoir du mal à comprendre moi-même, c'est que l'Algérie est plus chère pour un Algérien que la Tunisie. Et il y a un moment, ce serait bien que les hôteliers entendent ça et baissent les prix. Voilà. Je me permets de faire cette remarque.
C'est vrai qu'on a constaté qu'en Algérie, les prix des hôtels étaient quasiment des prix européens, continentaux, on va dire. Et c'est vrai que pour une offre, pour une qualité de service et autres qui n'était pas toujours à la hauteur.
Voilà, malheureusement.
Alors, vous gagnez ce matin un guide qui est offert par notre partenaire représenté par Saléa, le petit futé, Eddy.
Exactement, on gagne le guide Algérie aujourd'hui. Et pour cela, il faut répondre à la question suivante. Comment s'appelle la promenade qui est en construction aujourd'hui à Alger? Et pour répondre, il vous suffit de nous appeler au 01 53 48 3000.
Reda est avec nous. Reda, bonjour et bienvenue.
Allô, bonjour.
Bonjour, Reda.
Je pense que c'est à côté de la place, ça s'appelle la Sablette. C'est là où ils ont mis le grand mosquée d'Algérie.
Bon, est-ce que Reda pense bien, Saléa?
Oui, c'est la bonne réponse.
Ah, bon. Donc, Reda, vous recevrez chez vous dans quelques jours le guide du petit futé dédicacé par Saléa. Ça vous fait plaisir?
Est-ce que vous voulez une dédicace de Saléa pour Reda,
Ah, ça fait plaisir, Saléa. D'accord. Fait plaisir.
Je le ferai, promis.
Gardez l'écoute, Reda, on prend vos coordonnées. Très bel été.
À vous-même, merci.
Monsieur Bourrelifa, on est à la mi-temps des vacances en Algérie. Est-ce que le fait que l'Aïd tombe en plein mois d'août cette année, ça change quelque chose sur les réservations du tourisme en Algérie?
Oui. Il y a une chute, malheureusement. Il y a une chute pour la Tunisie, il y a une chute en Algérie, même, c'est toujours comme ça. Après l'Aïd, la plupart des complexes touristiques se vident en Algérie et en Tunisie, c'est la même chose. Il y a une cassure ces 2-3 jours-là, ce qui fait que le nombre diminue de presque de 50%. et les tarifs également baissent. Mais juste, je reviendrai à ce qu'a déclaré Sadia, elle a absolument raison. Les tarifs en Algérie sont très chers par rapport à ceux de la Tunisie. Et je rajouterai que la Tunisie présente le meilleur rapport qualité-prix pour ses produits balnéaires, à l'inverse de l'Algérie qui présente les plus mauvais rapports qualité-prix de la Méditerranée.
Bon, ah bah, dis donc, au moins c'est vous qui le dites.
Et puis il y a quelque chose...
Oui, je le dis en tant qu'expert, je le dis en tant qu'ancien conseiller de 4 minutes du tourisme, je suis désolé. On fait semblant de faire du tourisme, on ne le fait pas. Si on pense bien le faire, on agit de telle manière à ce qu'il ne se développe pas. Vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié le début avant que vous m'avez appelé, autant les questions que les réponses de tout le monde. Le budget de l'Office national du tourisme, c'est la quatrième année où il est encore diminué. Ça veut dire, depuis 4 ans, il a été divisé par 4. Cet Office national du tourisme ne peut pas faire de la promotion à l'étranger comme il se doit. Et c'est malheureux. De braves gars comme Todd avec ses vidéos, Yann Arthus Bertrand avec son fameux reportage, plus Talassa une fois qu'il a
fait un très beau reportage, Échappé Belle aussi.
Mais sinon, depuis 30 ans, moi je suis dans le tourisme depuis 43 ans, depuis 30 ans, on ne sait pas où on ne veut pas faire la promotion de cette destination Algérie. Et c'est ça le problème, il n'y a pas de visibilité. Maintenant, question la sécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les touristes voyagent en toute sécurité, ils sont bien reçus, et notamment les peignoirs où on leur ajoute bienvenue chez vous. Ils sont surpris. Les autres touristes également, ceux qui se baladent dans les grandes villes où il y a la foule, etc., certains sont invités à prendre un thé au café, ensuite à manger un couscous. Pas tous, mais certains.
Oui, alors, Saïd Bouhalifa.
Le peuple algérien demeure hospitalier, mais c'est le touriste qui ne suit pas derrière. Hein.
Oui, alors ça c'est exactement ce qu'on a ressenti nous effectivement en préparant notre série d'émissions sur le Maghreb et notamment sur l'Algérie, sur les plus belles villes d'Algérie. Mais il y a une chose que je comprends pas. Alors peut-être que vous allez pouvoir me l'expliquer. Il y a certains hôtels en fait qui appartiendraient à l'État et qui seraient dirigés par des gens qui ont été placés là. Alors c'est peut-être le frère, le cousin ou je ne sais pas qui d'un représentant du ministère du tourisme dans cette région, mais il y a à leur tête des gens qui ne sont pas du tout hôteliers. Et quand on appelle dans ces hôtels, ça a été le cas à moi, hein, quand j'appelle dans ces hôtels, vous apercevez que la personne qui répond au téléphone, elle ne parle ni français, ni anglais, ni même espagnol. Comment est-ce que c'est possible dans un pays comme l'Algérie, qui est quand même une grande nation, comment est-ce que c'est possible d'avoir des hôtels d'État avec à leur tête des gens qui n'y connaissent rien au tourisme et qui mettent pour répondre au téléphone des gens qui ne parlent aucune langue étrangère? Comment est-ce que c'est possible dans un pays comme l'Algérie, ça?
D'abord, c'est un problème de formation. Ça fait plus de 25 ans que la formation hôtelière et touristique a été négligée en Algérie. Et deuxièmement, justement, l'État est absent. L'État est laxiste, je le dis, je le répète, parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Alors on place des incompétents à la tête de certains hôtels.
Alors, le ministère du tourisme algérien, qui quand même travaille, a décidé la semaine dernière de prendre des mesures pour promouvoir une destination, c'est le sud de l'Algérie. C'est une destination qui se porte très bien puisque le nombre de touristes qui vont dans le sud a augmenté. 326 000 touristes se sont rendus dans le sud algérien l'année dernière, dont 250 000 étrangers. Comment est-ce que vous allez promouvoir la destination sud algérien, monsieur Bouhalifa?
Effectivement, les seules destinations qui restent, c'est le sud, le Tassili, le Hogar, le Mzab, le Goura, Tinimoun. Mais également, vous avez évoqué le tourisme culturel. Nous avons 21 sites romains. C'est la deuxième destination romaine en termes de potentialité après l'Italie.
Il y a 21 sites. Mais et sur le Tassili, vous avez le plus grand musée à ciel ouvert rupestre dans le Tassili. Est-ce que vous pouvez me dire qui le sait en France et est-ce que vous organisez aujourd'hui des circuits pour aller voir ces peintures rupestres qui sont quand même uniques au monde?
Tout à fait, il y a 16 000 peintures et gravures rupestres. Et les touristes, généralement, ils peuvent en visiter à peu près 200 ou 300, parce que c'est immense, hein,
oui,
ce territoire-là, de ces phares où se
c'est le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Hein.
Ah oui, absolument. Quand vous avez 16 000 peintures et gravures rupestres, c'est, et même ça c'est dans le Tassili du côté de Djanet. Et dans le Tassili du nord, du côté d'Ilizi, il y a un site Wadjarat où il y a 10 000 peintures et gravures rupestres. Dans certaines, il y a des positions érotiques. Déjà à l'époque.
Mais si moi demain, si moi, Monsieur Bourkhalifa, je veux y aller, moi demain, je veux visiter, justement, c'est.
Il y a des agences de voyage.
Ces peintures que vous vendez très bien, mais elles sont en France, elles ont des relais en France ou pas?
Oui, 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 elles ont des relais, bien sûr. Oui, oui, elles ont des relais.
Qui c'est qui commercialise des produits comme ça? Salia, vous savez, vous?
Oui, on en référence. On en référence dans le guide, hein. Il y en a à Paris, à Marseille, qui sont très sérieuses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arriver dans n'importe quelle agence en Algérie, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas toujours compétents.
Parce que ce n'est pas forcément une vraie agence.
Voilà, enfin, même si c'est une vraie agence, il n'y a pas les bonnes personnes derrière, il l'a très bien expliqué. Hein. Donc, et passer peut-être, quand on est en Algérie, par ce syndicat qui est reconnu effectivement par les autorités.
Alors, comment est-ce que vous allez promouvoir le Sud et qu'est-ce qui va se passer dans ce Sud algérien, M. Bourkhalifa?
La promotion revient à l'Office national du tourisme.
Ah bon?
Et oui, oui, la promotion, c'est à l'Office national du tourisme, c'est clair, je vais dire des évidences. C'est à l'Office national du tourisme, au ministère du tourisme, de faire des campagnes promotionnelles bien pensées, bien structurées et étalées dans le temps pour entretenir cette promotion au niveau du salon de Paris, au niveau du salon de Berlin, au niveau du, etc., des principaux salons.
Vrai. Ils sont présents à ces salons. Hein. Mais bon.
Et malheureusement, parce qu'on essaie de montrer le balnéaire. Le balnéaire ne suffit pas même pour les Algériens. Et c'est ce balnéaire qui est atrophié à l'heure actuelle qui fait fuir une masse de touristes algériens vers la Tunisie.
Et justement, en Tunisie, je voulais préciser quelque chose. Le succès aussi du tourisme en Tunisie pour les Algériens, ben en fait, ça vient du fait qu'il y a les formules tout inclus qui permettent un tourisme familial vraiment à bas coût. Ils arrivent avec 5 enfants, il n'y a pas de problème, tout le monde mange. C'est beaucoup moins cher aussi.
Il n'y a pas d'explosion de budget.
Voilà, voilà.
Le rôle inclusif, tout à fait. Tout
voilà.
À fait. Le rôle inclusif, oui.
Exactement.
La formule où on mange du matin au soir et on boit du matin au soir de 11h du matin à 11h du soir. Donc, c'est vrai, ça attire le tourisme.
Alors tiens, Heidi, vous voulez intervenir?
Exactement, voilà. Parce que la compétitivité touristique, elle est prouvée, puisque le World Economic Forum classe l'Algérie à la 118e place sur 180 pays en termes de compétitivité touristique. Juste pour comparer, la Tunisie, elle occupe la 14e place et le Maroc la 16e place.
Et compétitivité, ouais. C'est rapport qualité-prix. Hein.
Exactement.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit, on a vu, nous, parce qu'on a fait quand même une espèce de radioscopie du tourisme du Maghreb là pendant tout cet été, et on s'aperçoit quand même que, d'une manière générale, en Algérie, le prix des hôtels et des restaurants est bien supérieur en Algérie à celui au prix moyen au Maroc, par exemple, qui est quand même une machine de guerre en termes touristiques, le Maroc, un peu comme la Tunisie. Et c'est vrai que si l'Algérie, effectivement, si le gouvernement met de l'argent pour développer le tourisme, il faut aussi qu'il y ait une petite politique tarifaire, quand même, qui corrige un peu les choses. Soit qu'on améliore vraiment la qualité, soit qu'on baisse les prix. Parce que c'est vrai qu'à prix égal, moi, pour moins cher, je préfère aller en Tunisie, et pour à prix égal, et voire même un peu moins cher, je préfère aller au Maroc, malheureusement.
Mais même les Algériens, justement, ils préfèrent aller en Tunisie, c'est là où on se marche sur la
tête.
C'est
ça qui est dingue, oui. Ouais.
Bah parce que, encore une fois, il y a une réalité économique. Et la réalité économique, si vous avez une famille de 6 personnes,
voilà.
C'est je fais voyager tout le monde, je sais combien je vais dépenser, puisque c'est tout. Il n'y a pas de surprise, tout est inclus. Donc je suis, voilà, et le fait de manger toute la journée, c'est aussi important
bien
pour
sûr.
Les gens en vacances. Hein, donc les gens n'ont pas à se priver et à toujours être en train de calculer combien ils vont dépenser. Monsieur Bourkhalifa, quelle est la destination number one en Algérie cet été?
Cet été, vous avez Alger, Oran, Béjaïa, Annaba.
Voilà.
Quatre villes côtières.
D'accord. Alors,
si on parle pour l'été. Hein.
Oui.
Oui, oui.
Donc aujourd'hui, à Alger, la capitale reste quand même la destination qui a attiré le plus de gens.
Tout à fait, tout à fait. D'autant plus qu'il y a un maire, le maire de la ville d'Alger, qui est un éclairé, très efficace, qui a développé les terrasses de café, qui a insisté sur l'hygiène dans les sanitaires. Aujourd'hui, plus le rafalement des façades, Alger est redevenu réellement Alger la blanche. Hein.
C'est ce que disait Tolt hein, tout à l'heure. Il a pu comparer en un an et il disait qu'on voyait vraiment les progrès qu'il était en train de faire.
Oui, plus 360 000, nous disait Tolt, plus 360 000 touristes à Alger en un an.
Oui, et on voit des touristes déambuler hein, tranquillement, sereinement. Et certains, bien sûr, s'assoient sur les terrasses. Je dis qu'ils se sentent à l'aise au milieu de cette population hospitalière. C'est au niveau des hôtels que l'accueil laisse un peu à désirer parce que le personnel n'est pas bien formé. Parce que je parle des hôtels de l'État, parce que certains directeurs n'ont aucune formation, n'ont aucune expérience. Mm-hmm. Mais dehors, les touristes sont ravis. Hein.
Oui, d'ailleurs, la direction des hôtels qui appartiennent à des grandes chaînes comme Marriott, qui est pas mal implantée en Algérie, elle est confiée à des Français ou à des Marocains ou à des Anglais, mais en tous les cas pas à des Algériens. Est-ce que c'est pas un peu le paradoxe? Est-ce que ça montre pas justement un gros manque de personnel formé?
Tout à fait, parce que si l'État a jugé de remettre aux grandes enseignes internationales, Marriott, celle du groupe Accor, vous avez Mercure, vous avez Ibis, vous avez chez le Méridien, que Marriott et le Sheraton, c'est des hôtels qui appartiennent à l'État algérien, mais qui sont gérés par des managements.
Mais qui ont des licences d'exploitation. Mais qui là restent chers. Mais qui là restent chers. Ils ne sont pas accessibles au petit budget, ces hôtels, malheureusement.
Oui, c'est pas des hôtels pour faire du tourisme, par exemple, qui reçoivent des groupes de touristes. Hein.
Là, c'est plus pour le tourisme d'affaires, on va dire.
Oui, tout à fait. Heureusement qu'il y a maintenant de beaux hôtels de 3 et 4 étoiles qui ont été construits récemment par des privés, des petits, ils ne sont pas immenses, et qui sont bien gérés. Ce sont eux qui reçoivent les groupes de touristes prénois, par exemple, ou bien les groupes de touristes tout court.
Salia, oui.
Il y a la nouveauté quand même en Algérie, et on l'oublie un peu là, c'est les maisons d'hôtes hein, qui se développent, même si c'est pas encore tout à fait légal, faut dire, l'État les reconnaît pas forcément, mais il y a Airbnb quand même qui s'est implanté en Algérie, et on en parlait pour Tipaza dans la première émission.
On vous l'a beaucoup répété, effectivement.
Heureusement qu'il y a Airbnb, j'ai envie de dire.
Oui. Airbnb permet quand même d'avoir pour des tarifs vraiment accessibles, un accueil chaleureux chez des particuliers, puisqu'on a dit que les particuliers étaient très très accueillants en Algérie, et puis certains jouent même les guides gratuitement et vous invitent à manger à la maison. Donc je pense que aujourd'hui hélas et tant mieux aussi, la meilleure promotion du tourisme algérien, elle est faite par ces gens qui louent leur chambre via Airbnb. Oui.
Bien, allez, si...
Tout à fait, absolument d'accord avec vous. Ouais, mais là, c'est les autres qui font la promotion. Et comme l'a dit Sadia, effectivement, il y a cette formule du gîte chez l'habitant. Ça se passe très, très bien. C'est pas très, très connu comme substitution hôtelière.
C'est peut-être même pas très légal, tout court.
Mais heureusement que c'est là.
Oui, c'est là, mais la plupart, ils ont appris. Hein. C'est l'accueil, c'est l'hygiène et la sécurité à l'intérieur des maisons. Quand on parle sécurité, ça concerne l'électricité, etc. Et à la Casbah, maintenant, aujourd'hui, on peut dormir dans une belle maison à la Casbah, et déjeuner, dîner, etc. Et monter à la terrasse, voir toute la baie d'Alger, la belle baie d'Alger.
Bon, M. Bourrelifa, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Regardez les vidéos de Tolt, Don't Go to Algeria. Ça va peut-être vous donner des idées. M. Bourrelifa, on fera très prochainement le bilan de la saison. Merci d'avoir été avec nous.
Et merci. Les vidéos de Tolt, je les ai vues et revues avec plaisir.
Bon, ben voilà. Ben, c'est pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne les connaissaient pas. À bientôt.
Merci, enfin.
Salia, vous revenez quand vous voulez. Demain, destination Maroc, nous irons à Essaouira et nous aurons un secret, le secret le mieux gardé du Maroc sera partagé avec vous demain. Belle journée sur Beurre FM.
Destination Soleil.
Sur les plus beaux sites du Maghreb, Décalage Immédiat, Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.